Bienvenue pour cette seconde journée des Utopiales. On va ouvrir cette journée avec un débat sur la machine qui singe le vivant. De tout temps, l'homme s'est inspiré de son environnement et en particulier du vivant pour fabriquer des outils, résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Et on va essayer de faire le point ici sur comment reproduire le vivant, mais peut-être plus important encore, pourquoi reproduire le vivant. Translation is okay? Et pour réfléchir à ces questions, on a cinq invités à ma gauche. Paolo Bacigalupi, qui est un romancier américain qui écrit pour les adultes et pour la jeunesse aussi, qui est publié en France au Diable Vauvert. Tu as reçu les prix Nebula et Hugo pour ton premier roman, ce qui n'est pas une mince affaire, et qui est paru en 2009. Ce roman, c'est La fille automate, en français, The Wind Up Girl en anglais, qui met en scène Emiko, une créature artificielle qui est fabriquée pour, qui est précisément fabriquée pour singer le vivant et pour, en l'occurrence, pour satisfaire les caprices des hommes d'affaires. Donc, tu connais bien, enfin, tu as exploré le sujet de notre table ronde. À ta gauche, Sylvain Chambon, qui est un grand lecteur de science-fiction, n'est-ce pas ? Tu es informaticien le jour, donc je suppose que c'est la nuit que tu t'intéresses à l'interface entre les sciences du vivant et de l'information, et en particulier la génomique, la biologie des systèmes et ce genre de questions. Tu as également écrit plusieurs nouvelles, et, dont une est parue récemment et tu seras en signature juste après. À ta gauche, au milieu, donc, Alexei Grimbaud. Tu es chercheur au laboratoire de philosophie des sciences du CEA, spécialiste de l'information quantique et des questions éthiques liées aux nouvelles technologies. Tu enseignes par exemple l'éthique de la biologie des systèmes à Évry et tu es membre d'une commission sur les questions éthiques des technologies de l'information. Tu as en outre écrit un petit livre sur la composition des systèmes qui s'appelle La mécanique des étreintes et qui a été publié en 2014 chez Encre Marine. À ta gauche, Vincent Bontemps, également membre du laboratoire de philosophie des sciences du CEA, expert en méthodologie de la conception. Tes travaux portent sur les instruments et les processus qui sont mis en œuvre quand on fait de la recherche et sur l'éthique des relations entre l'homme et la machine, qui est un sujet qui est de plus en plus d'actualité aujourd'hui. Tu as publié cette année un ouvrage sur Bachelard ainsi que Les idées noires de la physique avec notre bien-aimé président Roland Lehoucq aux belles lettres. Et pour finir, Pierre-Henri Gouillon, agronome, biologiste, philosophe, professeur au Musée national d'histoire naturelle, et j'en oublie, et, ainsi que dans d'autres institutions. Tu es spécialiste des questions d'évolution et de biodiversité. La génétique, je pense, n'a pas beaucoup de secrets pour toi, et tu as écrit plusieurs ouvrages sur ces questions. Alors, pour explorer cette question de la machine qui singe le vivant, on va essayer de la séparer en trois grandes catégories. La première, c'est quand les ingénieurs, les techniciens se sont inspirés du vivant pour fabriquer des machines et résoudre des problèmes matériels, donc vraiment pour un aspect fonctionnel, presque corporel, si je peux oser le mot. La deuxième partie, ce sera plus sur quand les ingénieurs, les techniciens et les auteurs de science-fiction donnent l'apparence du vivant à une machine, ce qui n'est pas forcément lié à la fonction qu'elle a, mais l'intérêt de donner une apparence vivante à une machine, quelle que soit sa fonction. Et puis, on continuera à explorer, évidemment, une question qui est très d'actualité et assez brûlante, qui est quand ingénieurs, chercheurs essayent de reproduire l'intelligence du vivant, donc l'intelligence artificielle. Et donc peut-être pour commencer sur la partie donc plus fonctionnelle, est-ce que l'un d'entre vous peut un peu nous dire historiquement dans quelle mesure les scientifiques se sont inspirés du vivant pour réaliser des objets ou pour résoudre des problèmes concrets ? Et on peut penser, juste pour lancer le débat, aux premiers avions, enfin aux premières idées d'avions. La première chose que les gens ont fait quand ils ont pensé à faire des avions, c'est évidemment d'essayer de reproduire le vol des oiseaux.
Alors, il y a peut-être un paradoxe dans la mesure où, évidemment, si on regarde sur le très long terme, l'observation de la nature et des animaux et d'autres choses a évidemment été une source d'inspiration pour le développement des techniques. Mais, justement, l'exemple des avions nous montre bien que c'est quand on s'est détaché de la volonté de reproduire le mouvement de battement des ailes des chauves-souris ou des oiseaux, qu'on a commencé à faire des progrès en aéronautique. C'est-à-dire que cette première observation, cette première inspiration du vivant peut très certainement constituer ce que Bachelard appelait un obstacle épistémologique, et que la technique se libère quand elle trouve sa propre forme d'efficacité. Ça va jusqu'au point que ce qui est perturbant peut-être dans le développement des robots, et là je ne pense pas aux robots, les androïdes, les choses auxquelles on songe le plus souvent, je pense à les robots que vous trouvez dans les usines, qu'on ne vous montre pas d'ailleurs, parce qu'ils ont quelque chose de très profondément effrayant, qui est qu'ils réalisent très très vite et très très efficacement des opérations autrefois dévolues à l'opérateur humain, mais qu'ils ne la font pas du tout comme le ferait un opérateur humain. Les robots qui travaillent en usine ne ressemblent pas à des androïdes. Ce sont des machines-outils, par exemple, sur lesquelles on a greffé, et puis ils font zzz, 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 à toute vitesse. Et puis on voit des petits singes autour qui s'affairent pour retirer les pièces, pour les remettre, pour régler, pour remettre de l'huile, pour machin comme ça. Et c'est pour ça que c'est très effrayant. C'est pour ça qu'il est totalement interdit. Vous pouvez voir autant que vous voulez des reportages sur des robots zoomorphes ou androïdes, vous ne verrez jamais un reportage à la télé sur ce que sont vraiment 99% des robots qui ne ressemblent pas à des êtres humains, mais qui vous feraient très très peur. Parce que, voilà, c'est, donc il y a cette idée qu'il y a quelque chose qu'un autre philosophe qui s'appelle Günther Anders appelait l'humiliation prométhéenne, et qui est que l'homme découvre en étant confronté au robot qu'il n'est finalement pas la forme d'organisation la plus efficiente pour faire ce qu'il fait. Et ça, c'est différent des problèmes qui sont liés aux robots qui ressemblent à des êtres humains, qui sont plus des problèmes spéculaires, qui sont des problèmes de vacillement de l'identité. On y viendra, je crois, dans la deuxième partie. Mais dans la première partie, ce qu'il faut réaliser quand même, c'est évidemment, de nos jours, on revient vers des argumentations sur le biomimétisme, inspirons-nous du vivant, c'est très à la mode, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et souvent, quand même, c'est du storytelling. Souvent, c'est quelque chose qu'on raconte après coup, en fait. On fait une invention technique et après, on la justifie par un exemple tiré de la nature. D'accord, les cas où la reproduction de quelque chose d'animal produit de très bons résultats, bien sûr, alors c'est parce que plus on a de culture quand même dans l'arbre du vivant, plus on a de chances de trouver des schémas intéressants, hein, mais ce n'est pas le cas le plus courant. Voilà.
Oui, je voudrais ajouter que, en fait, non seulement ça ne marche pas directement comme ça, l'exemple des ailes est excellent, il a bien fallu abandonner l'idée de battre des ailes pour que ça marche, mais souvent c'est dans l'autre sens que ça a marché, curieusement. C'est-à-dire que il y a eu une période où on se demandait à quoi servait le cœur. Et on a pensé d'abord que c'était l'endroit où on mettait les sentiments, hein, vous savez tous ça, et puis après on a pensé que c'était un organe qui permettait de faire de la chaleur, Et puis, c'est dans l'Angleterre qui commençait à s'industrialiser à fond et où il y avait des pompes partout que tout d'un coup, Harvey a eu l'idée que le cœur était une pompe. Donc, c'est parce qu'on avait créé des pompes qu'on a compris la fonction du cœur. Et on a un autre exemple qui est tout aussi important et sur lequel on pourra revenir dans la troisième partie, c'est l'aspect informationnel. C'est-à-dire que dans What is Life, Schrödinger, donc au milieu du XXe siècle, au début du XXe siècle, propose l'idée qu'il existe un code avec des choses écrites dessus dans le vivant. Bon, il se trompe, il pense que c'est des protéines, il ne pense pas à l'ADN, mais par ça, l'idée était bonne. Et c'est dans le monde de l'informatique, dans un monde dominé par l'informatique, que va naître cette idée d'un code génétique et du fait que les êtres vivants transmettent une information. Et c'est une des choses que je trouve absolument remarquable, c'est que l'information codée sur l'ADN, celle des gènes, elle est écrite d'une façon très très proche de notre langage à nous. C'est de la combinatoire avec une syntaxe, etc. etc. Et tout compte fait, c'est seulement une fois qu'on a pu étudier la façon dont nous codions l'information qu'on a compris comment l'information se codait dans le vivant naturellement.
Oui, il faut, je m'excuse, je n'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, il faut toujours, à côté de l'idée de l'imitation, mettre l'idée de la perfection. Il y a une histoire que nous raconte Cicéron à propos d'un peintre grec qui devait peindre Hélène sur le mur d'un temple et qui a fait appeler plusieurs filles comme modèle, plusieurs filles de cette ville, en disant non, je ne peux pas choisir une fille seulement comme modèle d'Hélène, parce qu'Hélène, c'est la femme la plus belle de la mythologie grecque, mais je veux prendre la jambe d'une fille, la tête d'une autre fille, le pied d'une autre fille, et je veux faire une femme composée, plus belle et plus parfaite que n'importe quelle femme naturelle, parce que, dit Cicéron, la nature ne fait rien de parfait. Et donc la perfection, c'est ce qu'ajoute l'ingénieur à cette idée de l'imitation.
J'ai l'impression que vous êtes plutôt allé dans le sens que ça ne marche pas de s'inspirer du vivant pour réaliser. Est-ce que vous auriez des exemples qui marcheraient ? Quelque chose qui se serait... où on aurait vraiment singé le vivant pour produire un objet technologique qui... une grande réussite ?
Oui, alors, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est le fait simplement que les êtres vivants soient capables de faire des trucs, hein, qu'ils soient adaptés à leur environnement, etc. Et ça... C'est Darwin qui a commencé à proposer la première hypothèse qui permettait de bien comprendre ce qui se passait avec l'idée de sélection naturelle. Il a fallu rajouter la génétique pour dire que, justement, cette information écrite sur l'ADN, hein, bah, c'était une information qui pouvait varier au hasard et qu'ensuite la sélection triait dans les gènes ceux qui avaient produit les organismes qui les reproduisaient le mieux. Et qu'ensuite, il y avait de nouveau des variations au hasard, et puis que la sélection retriait ce qui marchait le mieux, etc., jusqu'à ce qu'on obtienne des organismes d'abord extrêmement diversifiés. Toute la diversité du vivant vient de ce processus tout bête de variation au hasard et de tri de ce qui marche et d'élimination de ce qui ne marche pas, et puis des organismes extraordinairement adaptés parfois. Il ne faut pas exagérer, justement, on parlait de perfection tout à l'heure, on est quand même très très loin d'être parfait. C'est très très con de faire entrer l'air et la nourriture par le même trou. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il arrive du coup que la nourriture passe du mauvais côté, et c'est très très désagréable et ça peut même tuer des enfants ou des vieux. Donc n'importe quel ingénieur à qui on fait fabriquer une machine dans laquelle il doit mettre de la nourriture et faire rentrer de l'air, s'il met le même trou pour l'entrée, on le fout dehors tout de suite. Bon, bah, le créateur, lui, il a fait comme ça. C'est extrêmement décevant. Donc on est loin d'être parfait. On pourra peut-être discuter de pourquoi, mais en tout cas, n'empêche que ce processus de sélection naturelle, donc il a cette qualité de pouvoir explorer des tas de possibles. Il explore quand même que ce qui est possible dans ce contexte-là, et malheureusement, du coup, il bricole toujours sur de l'existence. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a qu'une bouche pour à la fois respirer et manger. C'est qu'on est fabriqué au départ comme un tuyau. Bon, j'ai pas le temps de vous expliquer comment se développe un embryon, mais au départ, on est un tuyau avec une bouche et un anus, et puis après, on met des trucs autour. Donc évidemment, ça limite des possibilités, mais enfin, vous voyez que ça ne les limite pas tant que ça quand vous comparez l'état... Je parle seulement des animaux, là. Voilà. Eh bien, cette méthode pour progresser... Elle a été copiée en informatique, ça s'appelle les algorithmes génétiques. Et effectivement, on fait varier des critères dans l'ordinateur et on sélectionne ce qui marche et on recommence, etc. Et donc, voilà un cas où on a copié peut-être le truc le plus fondamental qui est dans la nature, c'est-à-dire la sélection naturelle, et où ça marche, on arrive à fabriquer effectivement des systèmes, on pourra en reparler dans la troisième partie, qui possèdent une sorte d'intelligence, hein, par simplement ce phénomène de variation aléatoire et de tri.
Il y a de nombreux exemples dans les matériaux. Dans les matériaux, la structure alvéolaire des ruches, par exemple, a servi à augmenter la résilience, la résistance des... et il y a beaucoup de choses aussi sur... la toile d'araignée a servi d'inspiration, vraiment, aussi, pour faire... Dans les nanotechnologies,
on voit
des choses.
Mais ça, on ne sait pas encore faire. Hein. Voilà. On ne sait pas encore faire à température normale un fil aussi résistant qu'un fil d'araignée.
Mais on n'a pas besoin d'être à température normale. Ça coûte plus cher, mais on peut tricher.
I think what you see a lot of times is that we observe something in nature which allows us to understand that it's possible. And by understanding the possibility, we can't necessarily ape the particulars of how a bird flies, but we know that things fly. With that inspiration, we create machines that then follow the outcome that we're seeking. And I think that that's really... where the genius of sort of our machines and the genius of our ingenuity comes from is by seeing something set before us, we see the example, whether it's a bird flying or it's a fish swimming, we say, oh, I want to do that too. How can I accomplish that? And the inspiration of nature is the jumping off point for us to understand that there's further that we can reach, that there's more that we can do, that there's a machine that can accomplish that. Even if it's something like creating a production line, we understand, we see that it's happening, and then we say, well, how can we push it further? How can we push it further? It may no longer mimic the living. It may blow past what the living can do, and it may look nothing like the living, but the initial inspirations, that's where you see the actions happening, and you say, okay, how can I do that? How can I mimic that? How can I do it better?
Do you mean if there were no birds? Vous voulez dire que s'il n'y avait pas d'oiseaux, on n'aurait pas inventé des avions?
Almost explicitly, yes. I think that you need some sort of... I'm sorry, I'm now... I think that you need some imaginative spark in order to reach for something. I think that human beings, I think that without that imaginative spark, you don't know to reach. And so without some sort of a narrative frame that says, oh, that's where I want to go, you don't think of it. And I think there are examples of us missing things that are right before our eyes as societies, as human beings, where we just don't understand because you don't have the vocabulary, you don't have the dream of the thing, so you can't reach for the thing.
Ce que dit Paolo, si je comprends bien, c'est que le désir est mimétique. Tandis que la solution fonctionnelle technique, elle, peut être différente de celle de la nature, mais le désir est toujours mimétique.
Donc on change le titre de la... c'est plus quand la machine singe le vivant, c'est quand le vivant inspire la machine, ou quelque chose comme ça. Sylvain ?
Oui, il y a juste quelque chose. C'est que assez souvent, on va regarder le vivant, on va en déduire des principes fondamentaux qui vont informer la façon dont on va construire des machines. Typiquement, quand on et effectivement, le sujet peut se faire complètement à l'envers. Quand on regarde une aile d'oiseau, au final, on a le même mécanisme aérodynamique que dans une aile fixe d'avion, c'est-à-dire que l'air va plus vite en haut qu'en bas, ce qui crée une dépression qui fait monter l'oiseau. Le fait que les ailes battent, en fait, n'ont absolument rien à voir dans l'affaire, contrairement à ce qu'on pensait pendant des siècles et des siècles. Et ce qui m'amuse un peu dans cette idée-là, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, je lisais un article sur, vous savez, les reptiles marins, les plésiosaures, ceux qui avaient très long cou, etc., sur la question de comment ils nageaient. Et en fait, on a plus ou moins résolu la question, ou en tout cas trouvé comment ça fonctionnait par analogie avec une aile d'avion, en fait, puisque les nageoires ont la même forme asymétrique qu'une aile d'avion, et donc on en a déduit que ces animaux-là, contrairement à ce qu'on pensait, n'étaient pas juste en train de nager comme avec une nageoire en tant que telle, mais ils nageaient, ils volaient littéralement sous l'eau. Voilà. Et donc en fait, le biomimétisme peut effectivement, comme disait Pierre-Henri, fonctionner à l'envers, parce que au final, ces deux intermédiaires qui proviennent d'un concept fondamental central qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée de trouver, de chercher si on n'avait pas vu le vivant, et dont on a fait une exploitation technique différente, mais à partir de cette idée générale très, très platonicienne, on va dire, comme concept, initialement.
Je vous propose d'évoluer vers la deuxième partie, donc vers les machines auxquelles on donne l'apparence du vivant, quel qu'il soit. Bon, on pense évidemment aux androïdes, mais ça peut être aussi des animaux ou même des plantes. Peut-être au niveau narratif, donc pour l'auteur de science-fiction, quelle est la recette narrative absolue, et tu l'as beaucoup explorée dans ton premier roman, de donner à une machine une apparence humaine. À quoi ça sert, en quelque sorte?
Okay, so for me, when I'm writing something like The Wind-Up Girl, which is all about a genetically engineered person, there's this idea of, I think that we continually do like the idea of machines that will solve certain problems. And I think that when we create machines or bioengineered beings or whatever that ape humanity, what we're looking for is something slightly less than human. We're looking for that human that we can control. And it's an odd sort of thing. We want it to be human enough that we can believe that it's something we can relate to, and we want it to be inhuman enough that we don't actually have to treat it like a real human being. And there's this thing that shows up again and again in science fiction stories about we want the robots to serve our interests. We don't want them to be independent. And that's very rich ground for me as a writer, is trying to understand what is it about our impulse to have somebody who's companionable to us and yet is also completely subservient to us, and what does that say about us, and then what does it say about the being that's being created? And, you know, in both The Wind-Up Girl and there's a short story actually in the Utopial collection, Mika Model, I'm very interested in that idea that, wait, we built this thing, we want it to be exactly perfect and useful for us. Oh, what happens when it actually has some drive of its own?
Peut-être une question pragmatique pour toi, The Wind-Up Girl, est-ce qu'elle a deux tuyaux pour respirer, pour manger, ou un seul?
The Wind-Up Girl herself actually is entirely human that way. There are other wind-ups, there are other bioengineered creatures, though, that are in that world that are much more specialized. And so there's some talk about creatures in factories that have been engineered with multiple arms and that are designed to sort of sit there and do their thing and not to, you know, move out of place. They are robots in that sense, except for they're bio-robots, basically. You know, they really have no other function except for that they're perfectly, you know, designed to sort of sit and work.
Et elles ressemblent à des humains ou pas?
No, not at all. And there's this question, because their function isn't to be human, their function is to be useful.
Yeah, c'est les robots que Vincent décrivait au tout début.
Yeah.
Paolo a parlé de cette idée qu'on imite quand on crée un esclave, un serviteur, une machine qu'on veut contrôler. Mais il y a une autre raison aussi fondamentale que la première, de singer le vivant, il existe une certaine satisfaction à savoir qu'on a atteint ce niveau de savoir-faire, ce niveau de connaissance parfait qui permet de faire des choses indistinguables. Il y a une vieille histoire d'ailleurs que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une histoire du 12e à peu près siècle qu'on a lu dans les manuscrits anciens des populations juives de l'époque. Et donc pour ces gens-là, le prophète Jérémie était l'homme le plus sage et le plus intelligent de tous. Et Jérémie ne pouvait pas juste se contenter de savoir qu'il était le plus sage et le plus intelligent, il devait faire quelque chose pour le prouver. Alors il fait un homme artificiel, et tellement haute était sa connaissance que cet homme artificiel était parfait, absolument indistinguable d'un homme naturel. Donc il se lève et aussitôt il se met à parler avec Jérémie. Et parler, vous voyez, parler, c'était la fonction cognitive, ça nous mène vers notre troisième partie essentielle. Et donc il dit à Jérémie, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait ? Et Jérémie lui répond, je t'ai fait, toi, voilà, je suis content. Le golem, donc ces êtres artificiels s'appellent des golems, c'est pas le golem de Prague que vous connaissez, c'est un autre. Le golem, c'est pas un nom propre non plus, il n'a pas de nom propre, il n'est pas vivant. Hein. Il dit à Jérémie, non, à partir de maintenant, quand un homme rencontre un autre homme dans la rue, il ne saura plus si c'est un homme né de père et de mère ou fait par un autre homme. Et Jérémie n'y avait pas pensé, bizarrement, à cette confusion éthique, à ce problème. Et Jérémie demande au golem, à sa créature, ce qu'il doit maintenant faire. Il lui dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Et ce golem, qui encore une fois n'est pas vivant, c'est une machine qui parle, il lui dit, défais-moi. Il ne lui dit pas, tue-moi. Il lui dit, défais-moi. Donc déjà, pourquoi est-ce que Jérémie, l'homme le plus sage, le plus intelligent, n'y avait pas pensé ? Bonne question. Et puis, pourquoi cette machine finalement n'est pas vivante si elle ressemble parfaitement à un homme né de père et de mère ? Et donc Jérémie défait son golem, la légende s'en arrête là. Vous allez me dire c'est un peu facile, évidemment c'est un peu facile parce que Jérémie avait cet avantage de réversibilité que nous n'avons pas avec notre action technique dans le monde. Quand nous introduisons quelque chose dans le monde, on ne revient pas en arrière. Et donc, nous sommes obligés de faire mieux que Jérémie, ce qui veut dire faire mieux que l'homme le plus sage et le plus intelligent par définition. Voilà, la question, c'est comment faire.
Et donc ça, on a un écho, évidemment, en science-fiction avec l'histoire de Frankenstein, hein, évidemment. Ou d'ailleurs, on revient sur un sujet qu'on a déjà évoqué, qui est que le docteur Frankenstein ne voulait pas juste créer la vie, il voulait créer une vie qui était meilleure que celle que faisait le créateur. Et finalement, bon, c'est ce qui lui est arrivé, la créature n'était pas tout à fait d'accord avec sa condition de vie. Au sujet de la question de pourquoi est-ce que... quel est l'intérêt de faire des machines qui ressemblent aux vivants. Il y a un sujet dont on a effectivement un tout petit peu parlé rapidement en parlant des machines outils qui feraient très très peur. C'est que justement, pour pouvoir avoir un rapport avec ces machines, pour pouvoir concevoir, nous en tant qu'êtres humains, comment interagir avec ces machines, on a besoin de les rapporter à quelque chose qu'on connaît et la quasi-totalité de ce qu'on connaît est vivante. D'où la nécessité, qui est purement de la relation publique, purement du storytelling, de se comparer ces robots avec des personnes, avec des animaux, avec des choses comme ça. Et donc c'est assez intéressant parce que ça veut dire beaucoup de choses en fait sur notre capacité à imaginer des choses, ou en tout cas à imaginer comment interagir avec des choses.
Est-ce que c'est plutôt pour se rassurer ou pour jouer au démiurge qu'on donne l'apparence de... Je vois les deux extrêmes un peu. Hein. Soit c'est pour se rassurer, pour que la machine ait l'air sympathique et pas trop dangereuse.
C'est quelque chose qu'on a étudié ensemble, Alexis et moi, donc c'est pour ça qu'on prend le micro en même temps. Il y a un japonais qui s'appelle Mori qui a écrit un texte extrêmement célèbre en robotique qui s'appelle « La vallée de l'étrange ». Et dans ce texte, il explique que pour favoriser les interactions entre hommes et machines, on va avoir tendance justement à zoomorphiser ou à anthropomorphiser la machine. et que pendant un moment, c'est vrai, ça aide. Et puis, il y a un moment donné où le fait de continuer à ce que ça ressemble de plus en plus à un être humain, à un moment donné, ça devient vraiment gênant. Ça devient vraiment gênant quand on serre la main de quelqu'un et tout d'un coup on se rend compte en fait que c'est pas vraiment une main mais que c'est quelque chose en silicone qui était très bien imité. On fait ah et on peut pas s'empêcher alors même qu'on n'avait pas envie d'être désagréable avec cette personne. Il y a des moments donc on arriverait dans cette étrange familiarité dont parlait Adler, ensuite Freud et des choses comme ça où ce frisson, cette indistinction devient réellement un problème social. Et la thèse de Maury, c'est que si on fait un pas de plus, c'est-à-dire si on arrive, on peut ressortir de la vallée de l'étrange en allant vers une stylisation qui est à la fois spirituelle et artistique, et où à ce moment-là, ça redevient un plaisir, ça redevient un moteur de lien. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'on a étudié sur certains automates et qu'on peut voir que ce phénomène-là est un phénomène qui peut être aussi réversible dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un petit automate qui est tout simple, qui est un automate qui ramasse une flèche, qui tire et qui est évidemment impassible, hein, qui est impassible, qui tire, puis la flèche va où elle doit aller, et puis bon. Et si on met la cible en face, les gens voient pendant un moment un petit robot faire de façon très très heureuse et très très sereine sa tâche. Mais si on décale la cible, et donc il rate à chaque fois, on voit un signe de Sisyphe et puis d'une chose absolument désespérante, de quelqu'un qui doit éternellement ressembler. Et les gens regardent ça pendant 2 minutes, ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir ce truc. Puis ensuite, ils disent, mais je suis en train de regarder une machine. C'est combien... Mais s'ils regardent un peu plus, ils vont revenir. Voilà, vous voyez, il peut y avoir ces effets d'oscillation à l'intérieur du mimétisme.
Et ils n'ont pas peur, les gens qui regardent le...
Ils ont peur d'eux-mêmes. C'est spéculaire, une fois de plus. Tous les réplicants, toutes les choses, comme le grand roman là-dessus, c'est le roman de Philip K. Dick, porté à l'écran par Blade Runner. Parce qu'à la fin, le personnage, donc, lui, il est payé, le héros, pour éliminer des doublures, et donc visiblement c'est insupportable dans la société qu'il y ait des doublures, et les doublures ont conscience de leurs différences. D'abord, elles n'ont pas d'empathie, hein, elles sont incapables d'avoir des sentiments, chose qu'on essaye de corriger. Et la deuxième chose, elles n'ont pas la même notion du temps que nous, puisqu'elles savent qu'elles ont une date de péremption. Mais et au bout d'un moment, quand le robot à la toute fin, le dernier monologue, exprime des choses qui sont sa singularité à lui, des choses qu'aucun être humain ne pourra voir, l'aube sur telle lune de machin, je ne sais plus quoi, à ce moment-là, le personnage qui est le chasseur s'identifie à lui juste à ce moment-là. C'est quand on exprime la singularité qu'on retrouve. Donc ça met en cause notre propre sentiment d'existence.
Ça, il y a un autre japonais qui s'appelle Ishiguro. Qui fait des robots qui sont sans intérêt du point de vue industriel, fonctionnel, mais qui ressemblent parfaitement aux êtres humains. Bon, la question, c'est pourquoi elle les fait. Et pour terminer avec mes histoires de golems, il y a une réponse dans les histoires de golems. C'est-à-dire, dans la tradition de ces golems, dans la Kabbale, etc., il est interdit de faire un golem tout seul. Parce que ça, c'est oser se mettre au niveau de Dieu, du Créateur, etc. Et par contre, il est aussi interdit de faire un golem à plus de 3. Pourquoi ? Parce que si vous êtes trop nombreux, la connaissance soi-disant secrète, la connaissance qui n'est pas censée échapper, va se propager, va devenir universelle. Et ça, c'est condamné aussi. Et donc ça, c'est intéressant de se demander bon, pourquoi dans ces légendes, il y a ces deux interdits, pas seul et pas à plus de 3. Donc seulement à 2 ou à 3, on peut faire un golem. Qu'est-ce qui est derrière, quelle est des morales, quelle est des politiques derrière, fait que dans les légendes, il y a ces deux interdits-là.
Juste pour revenir sur Blade Runner, quelque chose qui est absolument fabuleux dans le livre, qui apparaît beaucoup moins dans le film qui en a été tiré, c'est les animaux. Le titre original du roman, c'est « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» Et en fait, si Deckard, le chasseur, va aller chasser les réplicants, c'est pour gagner de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il a envie d'acheter un mouton électrique qui ressemble parfaitement à un vrai mouton qui broute de l'herbe synthétique comme si c'était de la vraie herbe, et ainsi de suite. Pour se rassurer, c'est quelque chose qui est complètement courant dans la société dans laquelle ils vivent, c'est pour se rassurer sur l'état du monde dans lequel ils sont, puisque le monde, on le voit un peu à demi-mot, a été complètement dévasté, il n'y a plus vraiment de nature. Et la façon dont les gens retrouvent leur humanité, c'est en élevant, entre guillemets, des animaux complètement mécaniques. Donc on en revient un petit peu à cette idée de mimétisme pour se rassurer.
I think that there's a natural human impulse to find ourselves in almost anything and to desire to see ourselves in almost anything. And Going back to the example of watching the little robot shooting an arrow, that we suddenly anthropomorphize feelings, we connect and think that there's something there, we connect more. We see this with and thinking about like the robot, the Aibo, the little dog robot, and how it didn't look like a dog exactly, but it had enough of the general shape that we could connect, we could project the rest of the details of dog into it. We do this with comics too. You connect more with a partially formed image of a person, not a perfectly drawn image. If you have two dots in a line, you suddenly see a face. You know, there's interesting things where we project ourselves all across different media and into, you know, we'll project life into a tree in a way that, you know, isn't really there, but we want it to be there. And I think that in our creations, when we start creating things, that impulse is so strong that does then become the highest tier of accomplishment, is that if we create a machine that truly appears like us, it allows us to feel connected. I think there's a hunt for connection with our physical realm, and so in our inventions, that there's always that inherent desire, and it's not just actually machines. We do it with all of our physical surroundings, and this is just another expression of it. So when we start trying to build androids, we start trying to connect to robots. It's just this almost it's an expression of our human desire to see ourselves replicated everywhere in the world and be able to identify with it, I think. It's just our need to connect.
Oui, je pense qu'il y a plusieurs difficultés supplémentaires dans cette question-là. D'abord, si jamais on voulait faire un robot qui soit très, très humanoïde, le mieux, ça serait effectivement, comme l'a proposé notre collègue écrivain, que de prendre un être biologique. Il vaut mieux pas le faire en latex, hein, ça sera jamais aussi bien. Tant qu'à faire, donc, il vaudrait mieux faire un être biologique qui ressemble à nous. Et au fond, la question, c'est à quel moment est-ce qu'on va décider que c'est un humain ou pas ? Si jamais je synthétisais un être biologique qui est entièrement la forme d'un humain, mais que je changeais des trucs dans son cerveau, est-ce que ça serait quand même encore un être humain ? Et ça permettrait effectivement de faire des esclaves qui seraient très très obéissants, qui feraient tout ce qu'il faut. Je vous signale quand même que cette idée-là, elle est d'une certaine façon proposée par Aldous Huxley dans Le Meilleur des Mondes. Les Epsilon, c'est des êtres humains normaux en quelque sorte, mais qui ont quand même été sélectionnés négativement, alors pour être assez peu doués intellectuellement, et qu'on conditionne dès leur conception, d'ailleurs même avant leur naissance, pour faire une tâche complètement stupide et répétitive, et comme ça ils la font toute leur vie en étant extrêmement heureux de faire cette tâche répétitive. Donc on a réussi à fabriquer des sortes de robots humains en quelque sorte, et des individus, et le problème du consentement se pose même pas, parce qu'ils sont contents de faire ça. Et donc la question éthique, vous voyez, se pose bien. Est-ce que si je fabriquais un robot vraiment humain, mais très heureux de faire son travail de robot, est-ce qu'il y aura un problème éthique ou pas ? Évidemment qu'il y en a un, mais il est difficile à définir, et il n'est pas de l'ordre du consentement.
Well, and there's another question here, which is the idea that if you bioengineer something, it's a living object. If it's genetically engineered, we have this entirely living object. So if we engineer someone who has an IQ of 50 and is very malleable for our purposes, you know, what is that, and what does that say about us? I remember watching a video of a cockroach with a little attachment on it that allowed people to remote control the cockroach, and watching a living creature being driven about by a human being was probably the closest thing to true evil I've ever seen. And I've never identified with cockroach in my life, and suddenly I thought, oh, there are ethical lines that we should not cross when we interact with other human when we interact with other animals, with our other biological beings. And so, like, there's this one line where we create the idea of an engineered person, a manufactured person that's all entirely living. But there's this other version that I've been thinking about, which is, oh, well, what if we just took out a little piece of it that made it seem human? So if we bioengineered the body of a human being, but we plug in some kind of a brain that's electronic instead, so we can convince ourselves, well, the skin of the thing It's just a shroud around the actual mechanics. So we know that because it's a mechanical interior driving this system, we don't have to have the same ethical questions that we might otherwise if we just engineered that thing. And I don't know where at what moment does the thing cross over into having some sort of right of existence and right of respect, and I'm still not sure exactly where that line is, but
Alexei?
Oui, il se trouve que j'organise dans un mois un colloque sur la biologie de synthèse et la notion de vie. Donc justement, cette notion de vie, elle est très amusante parce qu'elle n'a pas de définition scientifique et pourtant elle a un rôle culturel, social, juridique, éthique majeur. Ce qui est vivant doit être respecté, il a une dignité du vivant qui n'est pas une projection de nos idées anthropomorphes, mais une sorte d'être autonome donc qu'on doit respecter. Et pourtant, la frontière est complètement floue, elle n'existe pas scientifiquement. Donc comme disait Paolo, justement, si on fait un être artificiel en latex, un robot, on se dit, peut-être... le robot lui-même est content, mais quand même, c'est une projection des valeurs humaines sur une machine. On sait très bien que c'est une machine. Tandis qu'il suffit de prendre n'importe quel insecte ou de modifier le vivant, justement, comme disait Pierre-Henri. Et là, parce qu'on sait dès le début que c'est vivant, il y a un tout autre jugement éthique qui est impliqué. Il y a cette idée de dignité propre, de respect qui est dû à... cet être, même si finalement la différence n'existe pas, ou la différence est minime.
Heureusement, pour le moment, on ne sait pas fabriquer d'êtres vivants. La biologie de synthèse sait fabriquer des génomes, mais elle ne sait pas fabriquer des êtres.
Mais on sait modifier les êtres vivants fabriquer ceux qui n'existent pas naturellement.
On sait faire des OGM, oui, mais on ne sait pas en fabriquer de toutes pièces. Donc, comment c'est modifié ? On part toujours du vivant pour le moment. C'est vrai que le jour où on saura synthétiser vraiment un être vivant, on sera dans une situation difficile.
But how close are we? I mean, when you think about like where we are right now technically, where will we be in 50 years?
I think we're quite far. Je pense qu'on est encore assez loin parce que vous comprenez, c'est toute la différence entre de l'information et des entités matérielles complexes. L'information portée par l'ADN, c'est quelque chose de très simple. C'est comme un livre, c'est comme un programme informatique. Vous pouvez changer les lettres et puis voilà, vous refabriquez. Et donc, on peut facilement modifier un livre. Si je vous donne un livre, vous pouvez facilement le modifier. Si je vous donne une recette de tarte aux pommes, vous pouvez facilement changer quelques mots là-dedans et ça fera une tarte aux pommes différente. C'est ce qu'on fait quand on fait des OGM. Si vous voulez. Mais si je vous donne une tarte aux pommes et que je vous demande de la refaire sans la recette, si vous voulez, là, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plein de choses dedans. C'est de la refaire à partir de rien. Hein, pour faire une tarte aux pommes, il faudra quand même que vous ayez la farine, il faudra que vous ayez le beurre, il faudra que vous ayez les pommes, il faudra que vous ayez le four. Et si vous n'avez rien du tout, et c'est ça notre situation actuellement, nous ne savons pas fabriquer un être vivant, nous savons seulement changer les instructions qui servent à le fabriquer. Et c'est beaucoup plus facile de changer une instruction que de fabriquer cet objet.
Enfin, on sait fabriquer des êtres vivants, c'est la reproduction, mais c'est un mode de fabrication assez particulier.
Oui, mais justement, on part nécessairement d'un être vivant pour faire ça. Partir à partir de rien... Déjà d'où vient la différence entre un vivant et un mort ? Il y a la même chose dedans. Il n'a pas changé tout d'un coup de composition au moment où il meurt. Donc il y a une dynamique qui doit exister et c'est très difficile. Je pense que ça sera très difficile.
So right now my impression is that we could probably create a human embryo that we could take certain information and say we are going to create a human embryo with blue eyes and blonde hair, and we could implant it into a womb and grow it and have an engineered person on some level.
Ceci existe dans un certain nombre de pays. En Californie, il y a une entreprise dans laquelle vous pouvez faire trier vos embryons pour quelques centaines de critères. C'est assez cher, mais j'ai vu un documentaire récemment où des parents français allaient faire ça là-bas, puisque c'est interdit ici. Et les parents disaient, oui... c'est vrai que, je ne sais combien c'était, 200 000 euros, c'est un investissement. Enfin, de toute façon, un enfant, c'est un investissement quand même.
Hein. Mais Pierre-Henri, ça fascine même plus, je pense, que la création ex nihilo, qui reste quelque chose d'assez inatteignable, parce qu'on a parlé tout à l'heure de cette création
ex novo à partir d'atomes, quoi. Enfin, et c'est pas nécessairement ça l'objectif, parce que ce qu'on nous savons déjà faire pas mal, éditer les génomes, peut-être dans 50 ans on le saura faire encore beaucoup mieux, c'est extrêmement fascinant. Donc l'idée de prendre de l'argile, de la matière première comme avec les golems, et fabriquer un vivant à partir d'atomes, c'est pas nécessairement ça ce qui fascine le plus.
Oui, non, je disais juste ça parce que je revenais sur ce qui avait été dit, c'est qu'à partir du moment où on part d'un vivant, il y a une notion de respect de départ. Donc le jour où on saura le faire à partir d'inanimés, la question de savoir à quel moment le respect apparaît comme une émergence dans ce qu'on est en train de faire deviendra encore plus compliquée.
Alors, moi justement, à ce sujet, j'aurais envie de dire que c'est précisément un héritage culturel et qu'il est fort douteux que de penser que tout vivant a le droit à plus de respect que quelque chose qui est inanimé. Il y a beaucoup de machines pour lesquelles j'ai beaucoup plus de respect que le ver solitaire. Voilà, il y a des vivants que je veux voir mourir. Nos rapports éthiques avec le vivant, ils sont tels qu'il y a des vivants, on veut qu'ils crèvent. Faut être honnête, on n'est pas en train de respecter tout. Non, parce que les moustiques, je pense qu'ils ont qu'une certaine race de moustiques disparaissent. Pas tous les moustiques. Il y en a qui ont une utilité. Parce que si je fais disparaître les moustiques, ensuite je fais disparaître les batraciens et tout ça. Donc je suis conscient que je suis pas en train de vouloir, mais de toute façon, on est en train de remodeler tout le vivant. Et le fait que nous ayons de plus en plus une gamme d'êtres techniques autour de nous qui nous offrent toute une palette et tout un spectre, du coup, de sentiments éthiques différents, ça, ça demande à remettre en cause ces grandes frontières qui sont, par exemple, la coupure anthropologique, de sentir que les hommes sont différents de tous les autres vivants, ce qui ne serait peut-être pas arrivé si plusieurs espèces humaines avaient survécu. Nous sommes un cas particulier dans l'histoire où il n'y a qu'une seule espèce humaine sur la planète. Voilà, d'habitude, il y en avait plusieurs.
C'est parce qu'on les a zigouillés, c'est pas compliqué. Mais bon.
Peut-être, ou peut-être que ouais, c'est une possibilité qu'on ait zigouillé Néandertal, mais peut-être pas. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ces frontières où on dit nous ne devons respecter que les personnes humaines, elle est très douteuse. On n'est pas obligé d'avoir le même respect pour les autres, mais on peut avoir un respect pour les animaux, pour les plantes, on peut avoir un respect pour certaines machines, on peut avoir du respect pour certains bâtiments. Je veux dire, il y a une gamme éthique qui est en train de s'ouvrir et une problématique beaucoup plus large où il faut revenir et remettre en cause des préjugés, des choses qui sont de l'ordre du préjugé, qui sont en train de penser qu'il y a des frontières absolues entre l'humain, le vivant et l'inanimé. C'est pas exact. Nous sommes, nous, l'être humain, en charge éthiquement de savoir avec qui nous voulons vivre, et ça dépend de tous les... Enfin, quels sont les êtres qui vont nous accompagner encore dans le futur ? Et il faut prendre cette décision assez rapidement, puisque nous sommes en train, par la suite des choses, d'éliminer beaucoup d'êtres actuellement. Donc il va falloir faire des efforts. Si nous voulons vivre avec des renards, il faudra faire des efforts pour qu'il y ait encore des renards. Et pareil pour les machines. Quelles sont les machines que nous voulons garder avec nous ? Des bombes atomiques ou autre chose ? Et la question éthique nous incombe maintenant, et c'est plus compliqué que juste de dire c'est vivant, c'est pas vivant, c'est intelligent, c'est pas intelligent. C'est plus compliqué.
Oui, absolument, surtout que je suis assez convaincu que le premier être vivant synthétique qu'on va créer, ça va être une bactérie qui va produire du pétrole. Et le respect qu'on peut avoir pour une bactérie qui va aspirer le CO2 de l'air et ça produire existe. Du pétrole, voilà, si ça existe encore, c'est encore mieux. Je suis pas à la page. Mais le respect qu'on peut avoir pour cette bactérie, honnêtement, il m'échappe un petit peu. À part comme création intellectuelle, où là, c'est fabuleux. Mais,
parce que c'est une bactérie et qu'on ne peut avoir de rapport éthique avec les choses à notre échelle. Quand les choses sont trop grandes ou trop petites, tu n'as pas de rapport éthique avec une fourmi. Tu as un rapport éthique avec une fourmilière. Et tu aurais un rapport éthique avec cette colonie de bactéries qui sont en train de nettoyer ton atmosphère, tu la respecteras.
I think though that there are these uncanny valleys. There are these surprising moments where we realize, oh, that's too far. Why is it with bacteria? I don't care for some reason, but for some reason, a cockroach that I would happily smash, I don't want to see it driven around. I do not want to see it remote controlled. That feels wrong to me. That's that moment that I cross into another spot where our relationship between machinery and the living isn't appropriate somehow, and it feels like it's a taboo, and I didn't know that that taboo existed because I would happily smash that cockroach and would never think twice. I think that whether that's the creation of a robot that looks a little too human but not quite human enough, whether there are these moments that we find ourselves caught in surprising gaps, and I don't think we're done discovering all of those strange gaps.
Ça, c'est la question d'échelle dont parlait Vincent, mais je ne serais pas d'accord sur l'idée qu'il est temps pour nous, qu'il est urgent, qu'on doit se précipiter pour décider avec qui nous voulons vivre. Parce que le développement des machines nous redéfinit nous aussi. Nous ne sommes pas les mêmes nous aujourd'hui ou d'ici 20 ans ou d'ici 50 ans. Donc l'idée qu'on peut prendre des décisions ici et maintenant et les projeter dans 20 ans ou dans 50 ans, cette idée ne tient pas la route.
Ah non, excuse-moi, là tu ne peux pas dire ça. Étant donné que nous savons que nos actions d'aujourd'hui auront des actions dans 50 ans, tu es bien obligé de décider aujourd'hui de choses pour dans 50 ans. Tu peux te tromper sur ce que voudront les ceux d'après, et c'est déjà arrivé. On a déjà imaginé que la génération d'après voudrait qu'on ait sélectionné des humains mieux foutus, et on a fait de l'eugénisme, on a stérilisé des gens, et on trouve ça affreux aujourd'hui que nos prédécesseurs aient fait ça. Donc évidemment qu'on peut se tromper, mais tu ne peux pas te dédouaner de ta responsabilité aujourd'hui, sachant que tes actions... Regarde, l'argument que tu donnes, eh bien, ne foutons-nous du climat, continuons à foutre du CO2 dans l'atmosphère, et ceux d'après, ils se démerderont, ils auront fabriqué les machines pour régler ça. Non, on ne peut pas faire ça.
Non, par contre, tu ne peux pas justifier ta décision ici et maintenant par les gens, par les générations futures qui existeront dans 50 ans. C'est ta responsabilité ici et maintenant, et la justification ne vient pas du tout de ces générations qui n'existent pas, parce que ces générations, tu ne peux pas même les imaginer. Tu ne sais rien à propos d'elles. Donc cette responsabilité, elle n'est absolument pas justifiée par ce qui va exister dans 50 ans, mais parce que tu imagines aujourd'hui, ici et maintenant, toi, et pas les gens qui vivront dans 50 ans.
Je pense qu'il est urgent de décider de vivre un peu avec notre public. Parce que le temps passe. Donc j'aimerais savoir si dans le public, il y aurait des questions sur ce débat brûlant. On n'est pas allé jusqu'à l'intelligence artificielle, mais on en a parlé quand même un peu.
Bonjour. Est-ce que culturellement, on n'est pas dans une posture de débat où souvent, on reste ouvert d'esprit pour comprendre ce qui se développe dans certains laboratoires universitaires ou entrepreneuriaux, mais finalement on arrive souvent à nos auteurs de science-fiction préférés qui posent des questions éthiques depuis le début de la science-fiction, et on arrive toujours à se dire que l'éthique n'est pas vécue quelque part, n'est pas... Voilà. Quand on voit par exemple notre histoire politique de l'éthique par rapport aux organes, moi je pense aux choses consultatives de bioéthique par exemple, je sais plus comment ça s'appelait, les centres ou les comités, voilà, les comités consultatifs de bioéthique. Quand on voit donc c'est ce retour par rapport à l'aspect démocratique de la chose, on voit très bien que ça, que il n'y a pas d'organe d'écoute, et donc quelque part culturellement, moi je sais que j'ai envie de me défaire de cette posture de pas politiser la chose par rapport à des, je sais pas, par exemple. On sait qu'il y a des grosses entreprises qui déprogramment des graines, qui déprogramment ceci. Et on sait très bien que politiquement, on n'arrive même pas à avoir un dialogue avec eux, même quand c'est avec des avocats, même au téléphone. Voilà, ce sont des gens qui ne répondent pas de leurs actes. Donc la question, c'est par rapport au facteur 10 ou 100 de la chute de la biodiversité, par rapport aux dominos qu'on est en train d'essayer de retenir collectivement, par rapport à être résilient climatique, comment contextualisez-vous certains de vos débats, voilà, en tenant compte des grands auteurs de science-fiction, des grands auteurs.
Alexei, toi qui es dans un... Ou
Sylvain, ouais, je suis dans un comité d'éthique, mais je te laisse peut-être répondre.
Non, je voulais juste renforcer un peu la question, et après je laisserai Alexei répondre, en disant que... on se défausse. En disant qu'il y a un très grand auteur de hard science dans le domaine biologique qui s'appelle Peter Watts, dont le dernier bouquin en date, je crois qu'il n'a pas encore été traduit en français, mais ça devrait pas tarder à venir, s'appelle Ecopraxia. Et au tout début, on voit ça met en scène un chercheur en biologie qui est à peu près le dernier de son espèce puisqu'il va dans la nature faire des prélèvements pour voir ce qu'il y a, pour mesurer littéralement la biodiversité. Et en fait, il est complètement déprimé, il fait une grosse dépression parce que tout ce qu'il voit, c'est des organismes copyrightés. Il trouve des codes-barres sur tout ce qu'il trouve au milieu du désert dans l'Arizona. C'est un bouquin qui est absolument génial. Donc voilà.
À quoi sert un comité d'éthique ? Ce n'est pas la panacée, hein. Le comité d'éthique ne résout pas tous les problèmes du monde. Le comité d'éthique sert pour le chercheur, pour le concepteur, pour le designer aussi, à sortir des dichotomies, des choix binaires, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Le comité d'éthique élargit, enrichit la réflexion. Très souvent, on pense à l'éthique comme une entreprise de coller des étiquettes. Ça, c'est autorisé, ça, c'est pas autorisé. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Non. L'éthique des nouvelles technologies, surtout, c'est d'abord une réflexion sur comment est-ce que telle chose, si je la fais, pourrait changer la condition du monde, pourrait changer la condition humaine, pourrait changer les relations entre les hommes, les machines, etc. Et cette réflexion, c'est très compliqué de la mener parce que vous projetez dans les mondes qui n'existent pas, et c'est là que la science-fiction joue un rôle fondamental aussi, comme tout l'imaginaire. Tout l'imaginaire. Et comment est-ce qu'un chercheur qui est en train de travailler sur ce projet peut réfléchir, il n'a pas été formé pour, sur ces questions, à propos de ces questions qui dépassent souvent ses compétences techniques. Et c'est là que les comités d'éthique viennent l'aider et sont, j'espère, plus ou moins importants. C'est pour enrichir la réflexion plutôt que de donner des réponses arrêtées, ça c'est bon, ça c'est pas bon.
Oui, moi j'ai fait partie des comités d'éthique du CNRS et de l'INSERM. J'ai vécu pas mal ça de l'intérieur. Je trouve en fait que, effectivement, quand on est dans le comité, c'est très intéressant. On discute de tas de choses intelligentes et tout ça, et on se projette. Et puis quand on regarde le résultat sur le long terme, a posteriori, ça marche pas. L'éthique, on essaye de poser quand même un petit peu des jalons sur ce qui sera. On parlait de cross the line tout à l'heure. Quand est-ce qu'on traversera la limite? Et en fait. En réalité, à chaque fois que les comités d'éthique ont dit oui, il y a une espèce de limite là, et on est passé au-delà à un moment ou à un autre, parce que l'éthique ne tiendra jamais la route dans la société telle qu'elle est actuellement contre l'association entre la souffrance et les capitaux. Vous avez des gens qui souffrent parce qu'ils sont malades, parce que leur enfant va mourir, etc. Vous avez des capitaux qui sont prêts à être investis sur le fait de régler leurs problèmes. Je n'ai jamais vu l'éthique tenir la route contre cette alliance extrêmement puissante. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Bonjour. Oui. Moi, je reviens sur une question plus par rapport à l'anthropomorphisme et au zoomorphisme. Est-ce que vous ne pensez pas que justement l'idée de recréer du vivant, quelque chose qui nous ressemble ou qui ressemble à ce qu'on connaît, tient aussi du fait de nous confronter à notre capacité à reproduire et à dépasser? C'est-à-dire, je vais essayer de reproduire un humain. Et à partir de là, me confronter à l'idée, voilà, je suis capable de faire, et qu'est-ce que je peux en faire par la suite? Est-ce que je pourrais produire un surhumain ou des pièces détachées ou...
La réponse simple, c'est oui, vous avez raison. La réponse moins simple, c'est Alexis qui va vous la donner.
Oui, vous savez, il y a ces grands moments de la vie humaine, la naissance, la procréation et la mort. Et ces grands moments fascinent toujours, et les choses tournent autour, ces idées à la fois techniques, mais aussi de la science-fiction, ça tourne toujours autour de ces grands moments de la vie humaine. Et donc oui, forcément, que vous parliez du transhumanisme avec le désir d'immortalité, ou de la pré-création, et donc de la naissance, ou de l'acte sexuel et de robots sexuels, par exemple... On revient toujours à ces trois grands moments de la vie humaine.
Il y avait une autre question par là-bas, je crois.
Vous parlez beaucoup de... Est-ce qu'on a le droit de créer une certaine forme de vie? Ou est-ce qu'on n'a pas le droit de créer certaines formes de vie? Quand on parle de la disparition d'espèces, est-ce que vous pensez qu'on aurait le droit éthiquement d'essayer de reconstruire certaines des espèces qu'on a perdues potentiellement, de réparer ce qu'on a détruit?
Donc des machines dinosaures, c'est pas nous qui les avons détruites.
Le mammouth,
Le mammouth. Le dinosaure, on ne les a pas détruits. Hein. Je nie notre culpabilité sur la disparition des dinosaures.
Bon, écoutez, je voudrais vous dire deux choses à ce sujet. Premièrement, il y a des problèmes éthiques le jour où on commence à nous dire qu'on va reconstituer des hommes de Néandertal. Et il y a des fous qui sont en train de démarrer ça. Hein, et quand on leur demande, mais vous allez le mettre dans une cage ou dans un appartement, ce n'est pas leur problème. Donc comment vous traitez un Néandertal une fois que vous l'avez fabriqué, ça, je pense que c'est un problème éthique affreux. Recréer un mammouth ou recréer un dinosaure, moi, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de problème d'éthique avec ça. Simplement, ce que je voudrais vous dire, c'est que ça n'a rien à voir avec le fait de sauvegarder la biodiversité. Parce que la biodiversité, c'est toute une dynamique écologique. Votre mammouth, il sera dans aucun écosystème, il sera dans un zoo, c'est tout ce que vous pourrez en faire. Hein. Votre dinosaure, encore pire. Donc, en réalité, si on veut maintenir des équilibres écologiques qui fonctionnent et qui sont nécessairement dynamiques, ce qu'il faut, c'est essayer de maintenir l'existant, non pas le maintenir tel quel, parce que ça bouge tout le temps, mais de maintenir les capacités dynamiques des systèmes vivants, ce que nous sommes en train de détruire. Et prétendre qu'on va refaire de la diversité en ressuscitant des mammouths, c'est juste se moquer du monde. C'est des gens qui n'ont jamais rien eu à foutre de la biodiversité et qui trouvent du greenwashing en faisant ce genre de choses. Voilà.
C'est marrant quand même.
Oui, c'est marrant. On va prendre encore une question.
Oui. Moi, j'avais une question. En fait, on fait beaucoup la différence entre ce qui est vivant et ce qui est mécanique, mais est-ce que c'est pas finalement simplement de l'information qu'on encode de façon différente? Est-ce que, je veux dire, on doit pas déplacer un peu la différence qu'on fait entre les deux sur plutôt est-ce qu'il y a une conscience, enfin une forme de conscience, si on veut?
Bon, alors j'ai écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle Le fil de la vie, mais je laisse mes.
Il y a des différences quand même profondes pour l'instant si on prend des vivants très élaborés et des machines aussi à une certaine échelle. Le vivant est le fruit du processus de la sélection naturelle et donc c'est quelque chose qui est très 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 bien fait, très très bien adapté. Voilà. Et il n'y a pas de machine pour l'instant qui puisse prétendre être aussi concrète qu'un être vivant. Maintenant, il y a aussi des processus très différents. On en discutait juste avant de venir sur scène. La sélection naturelle, c'est le mécanisme de Darwin pour l'évolution du vivant. Ça veut dire qu'il y a une continuité et puis il y a ces différentes tentatives et par la reproduction, ceux qui arrivent, sélection. Dans la technique, il n'y a aucune raison que ça soit comme ça. Il y a aussi ce que j'appelle des lignées techniques, enfin, surtout ce que Gilbert Simondon appelle des lignées techniques qui se développent dans le monde des artefacts. Mais là, il peut y avoir transmission des caractères acquis. Ça peut tout à fait être lamarckien. Puis rien ne vous interdit de prendre une partie d'une machine pour en faire le début d'une autre machine. Vous ne pouvez pas faire ça avec un être vivant. Donc les deux phénomènes sont quand même dans des dynamiques différentes. Il n'y a pas de variation aléatoire ni de reproduction sexuée chez les machines. Donc ce n'est pas darwinien, vous voyez, le phénomène de l'évolutionnisme technique. Donc voilà, ces deux choses, quand même deux règnes assez distincts qui ensuite peuvent avoir des marges, des spectres, des choses qui se rejoignent.
On fait chacun une réponse courte, je pense. Ouais, c'est la mienne. Y a-t-il une frontière scientifique, sans parler de conscience, y a-t-il une frontière scientifique entre vivant et artificiel? Non. Je ne connais pas de définition scientifique de la vie ou du vivant. Par contre, y a-t-il une différence culturelle ou pour la société, éthique, juridique, morale, tout ce que vous voulez? Oui, elle est fondamentale. Et elle ne disparaîtra pas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas effacer la notion de vie de nos façons de penser, concevoir la société. Et donc, comment concilier la science d'un côté qui ne dessine pas cette frontière et la société qui en a besoin? Ça, c'est la grande question.
Bon. Un dernier élément d'information, c'est pas tellement une réponse, c'est un questionnement plutôt. Cette année, il y a un prix Nobel qui a été donné pour des chercheurs qui ont construit des machines moléculaires qui, en fait, conceptuellement reproduisent très exactement les moteurs moléculaires qu'on trouve dans les cellules. D'accord. Et ce que je trouve absolument fascinant, c'est que c'est un prix Nobel qui n'a pas été donné en médecine ou en sciences du vivant, c'est un prix Nobel de chimie. Donc en fait, la mécanique en tant que telle est en train vraiment de reproduire, même au niveau moléculaire infinitésimal, des mécanismes qui sont a priori du domaine du vivant.
I think that there's the separation that we see right now as being very strong is one that I think will become blurrier and blurrier over time, both from the biological side where we become more and more, we have more ability to grow and develop different organs, where we have the ability to grow different kinds of living things. And on the other side, as our technical capacity, our computational capacity increases, we don't really know where that blurring point is, but I think that there are they are out there, and there is some moment, we don't see it right now, but then again, we didn't really see that we'd be here right now. We didn't really understand that the speed that we're changing and the speed that our technical capacities are changing at this particular moment are, I think, we don't even grasp exactly how much we can do with CRISPR yet, let alone, you know, what we'll be able to do with it in 50 years. And so I think that there's some moment where both our technical capacity with biology and our technical capacity with computer science will hit some moments where we have very strong ethical questions, and we won't know the answers then because we haven't prepared for them before we trip over the line, as we always do with technology.
Ok, ce sera le mot de la fin, parce qu'il est l'heure. Il me reste à vous signaler que la plupart des intervenants vont être en dédicace dans la librairie maintenant ou dans pas longtemps. Et puis à les remercier tous les cinq pour ce débat qui fut passionnant.